Les informations, Jean-Claude Toumba Kamanga.
Bonjour, voici d'abord les titres du journal. Il faudrait une solution pacifique à la crise causée à l'est du pays par le général déchu Laurent Kunda. C'est le conseil du vice-président Roubaix-Roi au premier gouvernement de Joseph Kabila après son élection. Il a dit hier à Brazzaville au président en exercice de l'Union africaine, Denis Sassou Nguesso. La formule 1+4, un obstacle à la lutte contre la corruption à RTC durant la transition. Une dénonciation signée Pamphile Badou-Wabadou. Le président de la commission d'éthique et lutte contre la corruption l'a dit en prévision de la journée mondiale des luttes contre la corruption ce 9 décembre. Vous le suivrez dans ce journal. Pas assez de garanties pour les malades acheminés à l'hôpital général de référence de Aba en province orientale. Cet hôpital manque presque de tout pour administrer des soins. 100 000 habitants de la cité de Aba souffrent de cette situation. Les détails dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Azarias Roubaix-Roi, vice-président de la République, chargé de la commission politique défense et sécurité, demande au futur gouvernement de la RD Congo de régler pacifiquement la crise à l'est du pays et de prendre en considération les revendications des éléments fidèles au général déchu Laurent Kunda. Déclaration faite hier vendredi à l'issue d'un entretien avec le président du Congo-Brazzaville et président en exercice de l'Union africaine à Brazzaville, une correspondance de Arsène Séverin.
Ce serait une erreur stratégique de vouloir régler cette crise par les armes. Il y a des solutions politiques. Je conseille donc au futur gouvernement de trouver des solutions aux problèmes que posent ces groupes armés, a déclaré Azarias Roubaix-Roi à la sortie d'audience avec le président de l'Union africaine, Denis Sassou Nguesso. Les deux hommes ont aussi évoqué le deuxième sommet des pays des Grands Lacs qui s'ouvre la semaine prochaine en Nairobi, au Kenya. Pour Sassou Nguesso, RDC devrait saisir cette occasion pour amorcer son développement économique, le rôle de grand pays dans la sous-région. Plus nous allons nous engager dans le développement, nous aurons des problèmes sécuritaires, a reconnu Azarias Roubaix-Roi. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio Kati.
Au nord Kivu, justement, reprise des affrontements hier, vendredi matin, dans le secteur de Runyoni, non loin de Bunagana, à 80 km au nord-ouest de Goma. Selon un haut responsable de la 9e brigade, basée dans le Rutshuru, ce sont des éléments de cette brigade qui ont lancé une offensive contre des insurgés de Nkunda qui occupent cette localité depuis mardi dernier. Le bilan n'est pas connu, mais des témoins parlent de 4 militaires FARDC blessés. Le point avec Charles-André Kitcha.
Vendredi après-midi, les combats avaient baissé d'intensité selon le commandant de la 8e région militaire adjoint chargé des opérations, le colonel Delphé Kahimbi. L'officier a confirmé que la localité de Runyoni n'était pas encore sous contrôle des militaires FARDC. Le colonel Kahimbi a indiqué qu'un soldat FARDC a été blessé légèrement par balle au niveau de la jambe. Par contre, un habitant de Runyoni, joint au téléphone, affirme avoir vu 4 blessés, dont un grave, tous du 111e bataillon envoyé en renfort depuis Goma. Le même habitant indique que la population de Runyoni a fui depuis le matin vers le village voisin d'Nkamira et Kitovu pour se mettre à l'abri des tirs d'armes lourdes engagés dans ces combats. L'offensive des unités de la 11e et de la 9e brigade intégrées pour déloger les hommes fidèles en Kunda de Runyoni a commencé tôt le matin ce vendredi vers 8h. C'est depuis ce secteur de Runyoni que les fidèles en Kunda ont lancé mardi dernier une attaque contre des militaires de la 9e brigade avant de s'emparer le même jour des localités de Bunagana et de Jomba qu'ils ont contrôlées pendant au moins une journée. Dans ces deux localités, des milliers de personnes qui avaient pris la fuite vers l'Ouganda sont pour la plupart déjà rentrées, affirme l'administrateur du territoire de Rutshuru. Charles Ndrigicha, Goma, Radio Kapi.
Au nord Katanga, Nyunzu, territoire à 200 km à l'ouest de Kalemie, près de 700 ex-combattants Maïmaï du major Mundusi erraient encore dans la localité vivant sur le dos de la population locale. Des ONG et agences onusiennes interviennent pour leur réinsertion dans la vie civile. Une forte délégation composée notamment de la MONUC, OCHA, LIFEJ et PNUD est descendue mercredi dernier sur place pour mettre en œuvre le processus DDR. Cyprien Bayo.
300 ex-combattants ont déjà reçu leur certificat de désarmement et en plus 20 dollars comme prime d'encouragement remis par le CRK qui est un programme financé par le PNUD qui pallie l'absence de la CONADER. Pour rappel, les ex-combattants du Major Mundusi sont cantonnés à Nyunzu depuis le mois de septembre dernier et vivaient grâce à l'aide de personnel de l'autorité du territoire et la population. Le programme DDR à Nyunzu est exécuté par l'équipe mobile intégrée en synergie avec le CRK. pour faciliter la réinsertion de ces démobilisés dans la vie civile. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle a débloqué un fonds de 2 300 000 dollars américains destiné à financer les projets de réhabilitation des routes, construction des 3 écoles ainsi que d'un centre de santé. Notons cependant que la mission a 7 jours pour mettre à l'œuvre ce programme. Pour sa part, le major Mondoussi déclarait à l'arrivée du groupe CRK que cela est arrivé à un bon moment car ils étaient déjà découragés. Depuis Kalemi, Cyprien Bayou pour Radio Okapi.
Du côté de la MONUC, l'officier de liaison chargé du DDR avec l'équipe mobile intégrée à Nyonzou parle de 8 armes supplémentaires récupérées et la situation sécuritaire reste relativement calme dans ce territoire, voulais-je dire. À Uvira, bilan amer de la justice et des droits de l'homme dans le sud Kivu. La 10e région militaire a reconnu les violations des droits humains à grande échelle dont sont auteurs les FARDC dans les territoires d'Uvira et de Fizi. Le commandant second, le colonel Léon Mouchalet, l'a déclaré jeudi dernier à Uvira. C'était à l'issue d'un atelier organisé en prévision de la journée des droits de l'homme par la MONUC, par la section droits de l'homme de la MONUC. Selon la mission onusienne, sur 370 cas de violations enregistrés en moins de 2 ans, 365 ont porté essentiellement sur les arrestations arbitraires, de fois suivies de détentions illégales dans ces deux territoires.
Ces actes ont été portés à l'autorité judiciaire. Mais d'autre part, il faut aussi comprendre que si il est remarqué une lenteur dans l'action que la justice devrait poser, c'est compte tenu de certaines difficultés d'ordre matériel, parce qu'il y a d'abord insuffisance des magistrats, ce qui fait qu'il y a assez de dossiers qui ne peuvent pas être traités par quelques individus, et il y a aussi des difficultés matérielles auxquels les magistrats font face. Alors, je demanderai seulement à ce que les gens soient patients. Une fois que le problème est posé à l'autorité, il faut avoir de la patience, parce que ça demande du temps, des préparations, tant d'instruction et tant de jugements aussi.
C'était le colonel Léon Mouchalet, commandant second de la 10e région militaire, des propos recueillis par Fiston Ngoma. Rideau, hier vendredi, sur l'atelier préparatoire de la conférence des pays de Grand Lac. C'était à Kinshasa, dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères. Pendant 2 jours, les députés nationaux et les experts ont examiné le pacte de stabilité, de sécurité et de développement dans la dite région. Ce pacte sera soumis à la signature des chefs d'État lors du sommet de Nairobi au Kenya du 14 au 15 décembre prochain. Le coordonnateur national du comité préparatoire de cette conférence pour la RDC, Baudouin Amouli, affirme que le pacte comprend entre autres un pilier juridique, un pilier qui comprend aussi 10 protocoles, parmi lesquels celui de non-agression. Baudouin Amouli soutient l'importance de ce protocole de non-agression. On l'écoute au micro de Ribio Nzenza.
Alors, le protocole de non-agression et de sécurité mutuelle, ce protocole A est un protocole terriblement important, parce que c'est un protocole qui garantit, qui engage tous les États qui vont signer le protocole, qui ne peuvent plus agresser un autre. Mais cela ne veut pas dire que si un pays nous provoque, nous ne pouvons pas le regarder. Non. Mais dans ce cas-ci, on interdit à un pays de développer une politique agressive par rapport à un autre. Le deuxième protocole qui me semble extrêmement important, c'est le protocole sur l'exploitation illégale des ressources naturelles.
Toujours d'après le coordonnateur national du comité préparatoire de la conférence des pays des Grands Lacs, environ 70% des projets à caractère économique conçus dans le cadre de cette conférence profiteront à la RD Congo une fois réalisés. Nous sommes le 9 décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la corruption. À Kinshasa, la commission d'éthique et lutte contre la corruption a organisé hier une conférence de presse en son siège de la Gombe. Le président de cette commission a rappelé le cadre de la lutte contre la corruption à travers le monde et dans notre pays. Occasion pour Pamphile Badou Abadou d'évoquer les difficultés rencontrées par sa commission d'éthique et lutte contre la corruption dans l'accomplissement de sa mission. Et pour cause, la structure du pouvoir 1+4 qui, selon lui, paralysait toute poursuite judiciaire. L'une ou l'autre composante pensait qu'à chaque mise en cause, criait à l'injustice au profit d'une autre composante. Pamphile Badou Abadou au micro de Karine Kakassi.
Vous savez que nous étions pendant la période de la transition. C'était une période très, très délicate. On ne pouvait pas faire la lutte contre la corruption avec les composantes que vous avez connues vous-même. Chaque fois, nous avons eu des dossiers ici, on nous avait empêchés de travailler.
Est-ce qu'on peut dire que vous étiez aussi corrompu?
Je pense que vous n'avez jamais entendu une fois à la radio ou à la télévision que la commission était corrompue, c'est pourquoi ils n'ont pas pu travailler.
Est-ce qu'on a toujours dit que jusque-là, vous n'avez arrêté personne?
Même le parquet, quand ils arrêtent des gens, ils ne passent pas la télévision ou la radio pour vous dire que nous venons d'arrêter telle personne. Nous avons envoyé beaucoup de dossiers au parquet. Ils sont restés lettres mortes. Vous devez comprendre pourquoi. Pour ne pas déranger la transition, nous avons dit, j'ai bon de ne pas lutter contre la corruption.
Désormais, les déclarations de paiement à l'importation établies par l'OFIDA et l'OCC seront jointes des souches d'une société française privée dénommée Bivac en sigle. La vulgarisation de ce programme de vérification s'est effectuée hier vendredi au siège de la Fédération des entreprises du Congo, section de Kinshasa. L'objectif est d'attester la véracité de ces factures et lutter contre la surfacturation ainsi que l'importation illicite des produits. L'administrateur délégué technique adjoint de l'OCC et le cabinet de la ministre du Commerce extérieur soutiennent que ce contrat est légal et ne crée pas de confusion entre la société française et les deux offices congolais, OFIDA et OCC. On écoute l'administrateur délégué technique adjoint de l'OCC, Franck Moukanya.
Nous sommes dans l'inspection avant-embarquement depuis 1974. Il est normal que pour les raisons d'autres matérielles et financières que nous recourions au service d'une société étrangère qui bénéficie d'une couverture géographique plus large que l'OCC. L'OCC se gardant d'assurer le contrôle au niveau du réseau national. Ce n'est pas un problème de confiance, c'est un problème des moyens matériels et financiers. Les prérogatives des uns et des autres sont bien spécifiques. À nous, il revient de procéder à l'inspection des qualités, des quantités de prix avant embarquement via le mandataire et au débarquement en toute indépendance. Nous sommes les mandants. Il peut nous arriver de remettre en cause le résultat du contrôle avant-embarquement si ce contrôle a été effectué en violation des textes légaux et réglementaires nationaux, par exemple.
Même affirmation du côté du gouvernement, le cabinet de la ministre du Commerce extérieur rassure que le contrat avec la société française est bien légal, sa signature transparente, le directeur de cabinet de la ministre, Maurice Kanyama.
Je voudrais comprendre où se situe la confusion entre les rôles de l'UFAC. Nous avons signé un contrat d'inspection avant bac, pas un contrat d'inspection à destination, par exemple, qui n'est pas nouveau parce que je vous ai dit ici que nous sommes dans le contrôle avant-embarquement depuis 1974. Il y en a qui semblent découvrir le contrôle avant-embarquement maintenant, mais nous y sommes depuis plus de 30 ans. L'OCC, sur la base des textes légaux et réglementaires, effectue le contrôle des qualités, des quantités, des prix et de conformité avant-embarquement et au débarquement. Avant-embarquement via un mandataire. Et au débarquement, il est fait en toute indépendance. Où se situe la confusion? Jusqu'à preuve du contraire, les rôles, me semble-t-il, sont tout à fait séparés. Il n'y a pas de confusion.
En province orientale, carence de médicaments, manque de prise en charge des malades, insuffisance de matériel et du personnel qualifié. Voilà les maux dont souffre l'hôpital général de référence de Aba, cité située à environ 350 km au nord de Bounia, dans le district du Haut-Ouélé. Les malades déplorent ces conditions. Pour se ravitailler en médicaments, la direction de l'hôpital organise chaque mois un voyage à vélo jusqu'au marché de Ariwara à 135 km de Aba. En mission dans le Haut-Ouélé, Radio Okapi a rencontré Benoît Kingani Kene, l'administrateur de l'hôpital de Aba. On l'écoute, il est au micro de Isaac Remoyopé.
Nous manquons le médicament dans le stock. Pour le moment, nous achetons le médicament au marché, comme toute autre pharmacie. Nous achetons le médicament à Riware, à 135 km d'Aba. Pour le moment, l'hôpital général dispose que deux vélos. Mais nous avons trois personnes, on loue un autre vélo. On envoie les gens pour aller acheter, on songe à payer les restaurations, même frais de position pour les militaires. Il y a aussi des barrières sur la route. Pour les personnes, nous avons l'insuffisance de personnel. On ne reçoit même plus l'argent au niveau de la santé. On ne paye même plus. Nous manquons aussi de certains matériels, quel que soit au niveau de la chirurgie, la maternité, mais au laboratoire. Et au niveau des laboratoires, nous n'avons pas suffisamment l'argent pour acheter des réactifs qui coûtent extrêmement cher au niveau d'Ario.
L'administrateur de l'hôpital général de Aba indique aussi que toutes ces difficultés sont liées aux problèmes d'enclavement dont cette cité d'environ 100 000 habitants est victime. En dehors de nos frontières, la rébellion du delta du Niger s'en prend de nouveau aux installations des nids. Ces attaques soutiennent les cours sur les marchés internationaux déjà nerveux, cours de pétrole. Les négociants gardent en effet les yeux braqués sur la prochaine réunion de l'OPEP. Obsédés par la prochaine réunion de l'OPEP qui a eu lieu dans quelques jours à Abuja au Nigeria, les négociants pétroliers gardent ainsi des yeux braqués sur le pays le plus peuplé d'Afrique. Réunis vendredi soir à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des opposants tunisiens ont réclamé le droit d'organisation dont sont privées de nombreuses associations et ONG en Tunisie. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Merci à Willem Lungamba qui était à la mise en onde et Léonard Moulamba pour la coordination. Jean-Claude Toumba Kamanga, je vous dis merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.